Bonjour à toutes et à tous, numéro 6 de Mémoire à Véronèse sur CFM Rodez et tous les 15 jours. Et on a le plaisir de retrouver Vincent Beuzon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, président du comité Rodez du souvenir français, encore et toujours bien sûr.
Et bien sûr.
Et une nouvelle fois donc dans nos studios pour revenir sur l'histoire, la grande histoire ou les petites histoires aussi.
Aussi.
Autour de l'Aveyron et des Aveyronnais. Alors, il y a 15 jours, Vincent, tu nous avais annoncé qu'on allait parler du camp...
De réfugiés républicains de Sept-Fonds.
Voilà, Sept-Fonds, je suis pas très fort en géographie, mais Sept-Fonds, Tarn-et-Garonne.
Tarn-et-Garonne, tout à fait.
On s'appelle pas Mémoire Tarn-et-Garonnaise ?
Non, non, mais ne t'inquiète ne vous inquiétez pas, chers auditeurs.
Bon.
Non, non, bien sûr, ça a un lien assez fort avec notre beau département de l'Aveyron, je vous en parlerai.
Alors, ce camp de réfugiés, de républicains, de réfugiés espagnols de Sept-Fonds,
oui.
Donc on remonte quoi au 1930 ? Non, 40 ?
À la fin des années 30, oui, ouais. Oui, tout à fait. Petit rappel historique très rapide, donc guerre d'Espagne, on va pas refaire la guerre d'Espagne.
Parce non, ça a été terrible.
Ça a été déjà terrible, ouais. Et puis une émission n'en suffirait pas. Mmh. Alors la guerre d'Espagne, juste quelques chiffres, ça commence le 17 juillet 1936, c'est en fait les nationalistes dirigés par le général Franco qui font un coup d'État contre la République espagnole.
Qui venait d'arriver plus ou moins de mémoire à la République espagnole.
C'était pas très vieux, qui avait renversé le roi d'Espagne,
voilà.
Quelques années auparavant. Elle se termine le 1er avril 1939. Alors, c'est très compliqué de donner des chiffres au niveau des morts. Vraiment très très compliqué. Les deux camps, c'est toujours pareil, se disputent un peu les chiffres.
Ouais, parce qu'on était dans une guerre, mais c'était tout autant une guerre civile qu'une.
Ah, mais c'est une guerre civile.
Plus une guerre civile qu'une guerre traditionnelle.
Oui, tout à fait.
Tout le monde n'a pas un uniforme.
Oui, tout à fait. Bien sûr. Sans parler de tous les étrangers, les fameuses brigades internationales qui ont rejoint le conflit aux côtés des républicains. Mm-hmm. Les Allemands aussi, et un peu d'Italiens, il me semble, qui ont fait un premier coup d'essai. C'est la Légion Condor allemande. Qui a fait un petit entraînement, il n'a jamais fait la guerre, et comme Hitler voulait la faire, ça lui a fait un terrain de manœuvre.
Et c'est eux qui ont fait Guernica.
C'est ça.
Le fameux tableau de Picasso.
Oui, c'est ça.
Ils ont bombardé Guernica.
C'est ça.
Notamment.
Alors, au niveau des morts, on parle entre, c'est très large, la fourchette, on parle entre 380 000 et 451 000 morts pour cette guerre d'Espagne. Mmh. Alors, la fin de la guerre d'Espagne, le 23 décembre 1938, c'est la campagne de Catalogne qui commence. Tous les républicains se retrouvent acculés dans cette région de Catalogne. Le général Franco et les troupes franquistes vont écraser les républicains. Le 26 mars 1939, c'est la reddition de l'armée républicaine. Mmh. Et donc, à partir du mois de mars 1939, c'est ce qu'on appelle la retirada.
Ah.
La retirada, c'est pareil, les chiffres sont pas fiables. On va dire entre 470 000 et 500 000 militaires et civils espagnols, militaires, donc hommes, également des femmes, des enfants, qui fuient les troupes de Franco et qui viennent se réfugier en France. Mmh. En France, c'est très compliqué. On est en mars 1939, la guerre est à nos portes.
Ouais.
Que faire de tous ces républicains espagnols qui font un petit peu peur aussi au niveau politique, il faut l'avouer.
Ah oui, c'était la gauche, du communisme.
Plus que ça, voilà. Ouais, oui. Une grande partie d'anarchistes espagnols, partie de communistes espagnols. Donc, que faire ? En 1938, Daladier fait une loi justement sur les étrangers indésirables. Et cette loi ouvre la création de camps de concentration. Alors attention, camps de concentration, on ne parle pas des camps de concentration, des camps de la mort allemand.
Ouais, on ne parle pas des camps d'extermination.
Non, tout à fait. Mmh. Camps de concentration, en fait, c'est des camps pour concentrer un type de personnes que l'on doit surveiller. Mmh. C'est ce que l'on appelle des internés. Rien à voir avec les camps de concentration qui sont devenus les camps de la mort en Allemagne. Nous, d'ailleurs, en Aveyron, très très peu de gens le savent, mais on a eu un camp de concentration à Gages.
D'accord.
Un camp de concentration, justement, pour surveiller les étrangers indésirables.
D'accord. Les républicains espagnols ou d'autres ?
Je pense que... Alors, on sait très, très, très peu de choses sur ce camp.
Ouais.
Je pense qu'on a dû en avoir.
D'accord.
Alors, on crée d'immenses camps. On en crée partout dans les Pyrénées-Orientales. Les plus connus sont... le camp de Rivesaltes et puis le camp qui se trouve en bordure de la mer, le camp d'Argelès. Mmh. Et plein de petits camps vont se créer. Dont à Sept-Fons, donc dans le Tarn-et-Garonne, on va créer le camp qui prendra, alors c'est un nom un peu particulier qui fait penser au mot allemand Juden, le mot juif, parce que c'est le camp de Jude. Mais aucun lien du tout là-dedans. Jude, en fait, c'est le nom du lieu.
D'accord. Voilà,
donc le camp de Jude se crée et on va y interner des hommes uniquement, des réfugiés donc espagnols, avec, il faut bien le dire, une arrière-pensée. On ne sait pas trop encore quoi en faire, on y réfléchit. On va privilégier dans ce camp-là, il n'y aura pas que ce type de personnes, mais on va privilégier des travailleurs. Et on va d'ailleurs profiter de ce camp, c'est là que je vais parler de l'Aveyron, pour venir recruter des employés qualifiés, notamment, il y en a eu énormément qui sont partis, qui ont été embauchés dans les mines, les hauts fourneaux et les aciéries de Decazeville.
D'accord, voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale ou...
Alors juste la période 39, 40.
Juste avant.
Moi j'ai rencontré d'ailleurs des fils de républicains espagnols qui avaient été mineurs, qui travaillait dans l'acier à Decazeville. Alors, il m'avait expliqué que des Français venaient au camp avec des machines-outils. On demandait qui est capable de faire telle ou telle pièce. Les gens qui levaient la main, en fait, voilà, on leur donnait la machine-outil, on leur donnait une pièce brute et ils devaient faire la pièce. Moi, c'est le témoignage qu'on m'a donné. Et s'ils arrivaient à faire cette pièce, ils étaient embauchés.
Mais embauchés, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de sortir du camp, d'habiter à Decazeville pour y travailler, ou ils revenaient, il y avait des bus qui les ramenaient dans le camp à chaque fois?
Non, surtout pas à l'époque, imagine un peu Decazeville, cette fond, déjà que c'est à 1h20 de Rodez, avec les commodités actuelles.
2021.
Imagine à l'époque.
Ah, mais tu sais, bon.
Non. Ils avaient, je sais pas trop si la police devait quand même un petit peu les surveiller, ne serait-ce que de loin, mais non, ils avaient une vraie liberté. Ils étaient des employés à part entière. Okay. Et puis, il ne faut pas oublier que quand la guerre a été déclarée, le 2 septembre 1939, on manquait d'hommes, exactement comme en 14.
Ouais, pour bosser, parce qu'ils étaient partis ou ils étaient prisonniers.
C'est ça, tout à fait. Donc, cette main-d'œuvre a été d'autant plus utile et d'autant plus bienvenue que il fallait remplacer beaucoup d'hommes qui étaient à la guerre et puis plus tard qui ont été faits prisonniers.
Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce camp une fois la guerre déclarée et perdue par la France, dans un premier temps? Parce que la France, le camp Sept-Fonds, donc c'était la zone libre, c'est-à-dire qu'il a continué ou bien on a fermé, on a envoyé tout ça, on a dit aux Allemands, et alors on a des Espagnols, ils vous aiment pas trop, on vous les donne.
Alors écoute, merci beaucoup parce que tu poses vraiment une très bonne question. Je vais y répondre parce que ce camp a eu plusieurs vies. Ouais. Avant, je vais faire juste un petit retour sur le camp de cette époque-là, de 1939. Au plus haut des personnes qui ont été internées dans ce camp, on compte 16 000 réfugiés.
Dans le même camp,
dans le même camp.
Ah ouais, c'est un grand camp.
Entassés vraiment les uns sur les autres. Hein, apparemment, le niveau de vie là-bas était vraiment très moyen, très précaire. On compte 40 baraquements, 350 hommes par baraquement, qui dormaient par terre sur de la paille, des baraquements en bois. Hein, on imagine le vent, on imagine
le froid.
Le froid, ouais. Tout à fait. Ouais. Surtout qu'au tout début de la création du camp, alors l'hiver 39, ça va être arrangé, mais on va compter trois murs pour pouvoir mieux les surveiller. Donc trois murs, il en manque un, là ça fait vraiment, au niveau du froid, au niveau du vent, ça devait être vraiment terrible. Donc 44 baraquements sur 50 hectares, avec mirador, avec double rangée de barbelés, on s'en méfie. Et beaucoup, beaucoup d'hommes pour les surveiller. On compte à peu près 1000 hommes. Mmh. On compte à peu près 300 tirailleurs sénégalais. Alors, ça va très très mal. Enfin, ils vont pas du tout apprécier les républicains espagnols d'être
gardés
par des troupes noires, de soldats noirs. Mmh. Ça va les rappeler un petit peu les troupes franquistes, parce qu'il faut pas oublier que le général Franco était dans la petite enclave avant de venir combattre en Espagne, diriger des soldats dans la petite enclave marocaine. Donc voilà, ça va leur rappeler un petit peu ce qu'ils avaient vécu aussi pendant la guerre d'Espagne avec ces troupes coloniales. coloniale franquiste. Alors, 300 tirailleurs sénégalais, 6 pelotons de gardes mobiles, un escadron du 20e régiment de dragons et un bataillon du 107e régiment d'infanterie d'Angoulême. Donc, un total de 1000 hommes. C'est vraiment énorme. Ces prisonniers font pas grand chose au niveau du camp. On leur apprend quand même. On pense à plus tard, on ne sait pas trop encore quoi en faire, à part peut-être, comme je viens de le dire, fournir les usines et les entreprises qui en avaient besoin. On leur apprend quand même à lire et à écrire le français, quand même bien. Alors, ce camp va être fermé en 1940. On va mettre à la place, en fait, un camp militaire, toujours pour les réfugiés espagnols et pour d'autres nationalités. On va mettre, en fait, à la place un camp d'entraînement pour les militaires étrangers. Engagé volontaire. C'est encore la drôle de guerre. C'est le 1er mars 1940. Donc, je rappelle que les Allemands envahissent la France le 10 mai 1940. Donc, il y a quand même un petit laps de temps. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. On se regarde en chaîne de faïence, c'est pas encore la percée des Ardennes. Les Allemands sont pas encore chez nous. Et ces réfugiés espagnols, donc, on va presser le pas aux entreprises pour les embaucher. Il y a des pourparlers avec Franco pour rapatrier le plus possible d'Espagnols en Espagne. Mais les Espagnols qui arrivent à avoir des nouvelles de chez eux ne veulent absolument pas rentrer. Ouais. C'est vraiment compliqué. Donc, ces hommes, on va les motiver pour s'engager dans la Légion étrangère ou s'engager dans d'autres corps de volontaires étrangers. Quelques-uns vont quand même rester dans le camp de Septfonds. Il y en aura vraiment pas beaucoup pour faire partie de ce qu'on appelle des CTE. Les CTE, c'est les compagnies de travailleurs étrangers. Alors là, c'est des compagnies qui vont être mobiles, qui vont être surveillées, toujours pareil, par des Français, soldats ou gendarmes ou policiers, et qui vont être baladés de chantier en chantier. C'est les CTE. Il y en a eu en Aveyron, des CTE, ouais, pour construire des barrages, pour construire des ponts, des routes, voilà, ce genre de choses. Là, donc, on est encore sous la Troisième République. Hein. Donc, ces militaires étrangers engagés volontaires sont dans ce camp. Et il y aura également, dans ce camp-là, 800 aviateurs de l'ex-armée polonaise.
Oh là là.
Oui, qui vont quitter la Pologne, qui vont réussir
sauver au moment de l'invasion allemande.
À se sauver en passant, je crois, par la Roumanie, en passant par d'autres pays. Et 800 de ces aviateurs vont venir au camp de Septfonds. Et jusqu'à l'armistice de juin 40, où là, ils regagneront l'Angleterre. Voilà, pour combattre dans les troupes polonaises libres. Alors 800, il y a un souvenir, je parlerai à la fin des lieux qu'il y a à visiter là-bas, c'est vraiment très sympa à visiter. Moi je me suis vraiment régalé. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'arrêter
parce que le camp de réfugiés,
le lieu du camp, il y a pas grand-chose.
Ouais.
Déjà, il y a un musée. Il y a une maison de la mémoire qui est vraiment très très sympa à visiter, qui a une double vocation. Septfonds est une ville depuis le 18e siècle qui a été très 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 connue pour la fabrication de chapeaux. Il y avait des chapelleries partout dans le village. Donc la moitié de cette maison, je remercie d'ailleurs les personnes qui travaillent là-bas. J'ai été vraiment très très bien accueilli. Ça a été un vrai plaisir. La moitié donc parle de la chapellerie et l'autre moitié parle de ce camp de réfugiés espagnols et de tout ce qui s'est passé donc dans ce camp. Donc il y a plein de choses à visiter. On a reconstitué, il n'y a plus du tout de baraques, elles étaient en bois. Ils ont reconstitué une baraque il y a quelques années, un baraquement, qui se trouve, je crois, si je ne me trompe pas, à côté d'une ancienne réserve d'eau en béton, qui est toujours conservée. On a mis dans cet endroit-là un monument, des barbelés qui rappellent un petit peu le camp, avec des panneaux, c'est vraiment très très bien fait. Il y a, non loin de là, il y a un oratoire avec une vierge peinte à la façon polonaise, un oratoire qui a été fait par ces aviateurs polonais pendant la guerre, qui depuis est entretenu. Je crois qu'on va fleurir je me rappelle plus de la date, mais chaque année le jour de la fête nationale polonaise. Il y a également le cimetière espagnol. Il y a eu des morts,
oui,
de maladies, d'accidents, dans des conditions de vie dans lesquelles ils étaient les pauvres, c'est malheureusement logique. Il y a 81 tombes de républicains espagnols qui se trouvent à l'autre extrémité du village par rapport au camp.
D'accord, et c'est un cimetière dédié ou c'est un carré dans un cimetière?
Non, c'est un cimetière dédié. Okay. Ouais, vraiment très joli, c'est dans un endroit joli, en pleine nature. Il existe, si vous allez là-bas, il existe un petit dépliant, un petit guide qui explique tout. Avec un plan, il y a plein de lieux, il y a un endroit où les femmes des réfugiés espagnols qui, elles, n'étaient pas emprisonnées, pouvaient loger à l'extérieur du camp, dans le village. Il y a le lieu de l'ancien hôpital. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses qui sont vraiment bien pour la visite. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. C'est vraiment, si vous voulez faire des recherches, si vous voulez aller sur place, moi, je vous le conseille. Historiquement, c'est vraiment bien. On repart sur l'histoire du camp de Septfonds. Après l'armistice du 22 juin 1940, le camp sera démobilisé. Donc le camp, on l'a dit, d'entraînement pour les étrangers volontaires. Il servira de camp, justement, de démobilisation pour tous ces engagés volontaires. Alors ceux qui sont engagés dans la Légion étrangère resteront dans la Légion étrangère, puisque le minimum d'engagement, c'est pour 5 ans. Ils partiront avec la Légion en Afrique du Nord. Les autres seront libérés et devront soit trouver du travail dans les usines, soit faire partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ces fameux CTE, donc Compagnie de Travailleurs Étrangers. Avant l'armistice, le camp était dirigé par le ministère de la Guerre. Après l'armistice, il est géré par le ministère de l'Intérieur et également le ministère de l'Industrie et le ministère du Travail. Voilà, donc c'est vraiment dédié, on l'a vu, à remplir les usines, à pallier la main-d'œuvre absente des militaires et des prisonniers de guerre. Pendant la période de Vichy, ce camp va également accueillir, aura une double fonction, va accueillir donc toujours pareil des travailleurs étrangers, mais aussi ce qu'on appelle vraiment entre guillemets des indésirables. Alors par le mot indésirable, en fait, on veut dire juifs. Il va y avoir un GTE, le GTE 302, qui va être destiné aux, entre guillemets, aussi palestiniens. Voilà, donc des juifs seront emprisonnés dans ce camp.
Avant d'être expédiés, envoyés en Allemagne.
En camp de concentration. Ouais. D'ailleurs, il y a deux déportations. Le 24 août 1942, 84 hommes de ce fameux GTE 302 vont être déportés vers les camps de concentration. Et le 3 septembre 1942, il y aura une déportation de 213 juifs. Et là, il va y avoir des femmes, des hommes et des enfants qui ont été raflés dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne, et également apparemment ce qui reste de ce fameux GTE 302. Le camp va être libéré par la résistance en août 1944.
D'accord.
Et après sa libération, il va encore servir de camp d'internement, mais cette fois, c'est pour les Français.
Pour les Allemands ?
Les Français. Ouais. Pour les Français. Dans les Allemands, il y en a eu beaucoup chez nous, en Aveyron, au camp du Larzac, qui vont être emprisonnés jusqu'en 48, je crois, au camp du Larzac. Mmh. Là, en fait, ce sont des collaborateurs français qui vont être internés dans ce camp en attendant leur jugement.
Ah, d'accord, voilà. Ok.
Alors, vous voyez, le camp de Septfonds est un camp vraiment aux multiples visages. Oui. Moi, vraiment, je l'ai dit, je me répète, je me suis vraiment régalé de plonger dans cette histoire. C'est une belle balade.
Pas très connue, les réfugiés espagnols, à part ceux qui ont de la famille espagnole qui étaient concernés, mais sinon, pas très connus alors que c'était chez nous, quoi.
Bien sûr.
Tiens, question sur le camp avec ces Français, donc collabos internés dedans. Ils ont été le camp définitif. Il s'est fermé quand? Parce que les procès, il y en a eu jusque dans les années 50.
Oui, je crois qu'il s'est fermé il a dû être fermé en 46, je pense.
Ah, juste après la guerre.
Juste après la guerre. C'était pas pour les emprisonner. C'était vraiment dans l'attente de
leur jugement. Voilà. De procès. D'accord.
Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a un très bon livre qui existe, que j'ai acheté sur place. Le titre, c'est Septfonds 1939-1944 dans l'archipel des camps français. Il a été écrit par Geneviève Dreyfus Armand et il est pas vieux, il a été écrit en 2019, c'est un gros pavé vraiment intéressant qui parle vraiment de toutes ces différentes vies du camp aux éditions Le Revenant.
Très bien. Et bien, puisque tu es allé au musée récemment, ça veut dire qu'il est ouvert en ce moment, mais il est ouvert tout le temps, tout l'hiver ou quand même
alors, en saison ? Je vais vous donner les horaires, justement. Ouais. Il est ouvert, en principe, du 10 mai au 30 septembre.
D'accord.
Il est ouvert, alors sur cette période-là, il est ouvert le mercredi et le samedi, uniquement, hein, de 14h30 à 18h30. Et il y a une ouverture un peu plus large de juillet, en juillet, et en août. Il est ouvert du mercredi au dimanche. Alors que le reste du temps, c'est mercredi et samedi. Les horaires sont les mêmes, 14h30, 18h30. Par contre, si vous êtes plusieurs, alors bon, faut être, je pense, au moins peut-être une dizaine. Hein,
un petit groupe.
Vous pouvez les contacter sur Internet ou sur leur page Facebook. Et sur rendez-vous, on peut vous ouvrir.
Très bien. Bah, écoute, Vincent, merci beaucoup pour toute cette connaissance partagée. Camp de réfugiés des républicains espagnols, donc à Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. Mais
je voudrais faire un petit appel.
Ouais.
Moi, je me régale vraiment à faire ces émissions. Je te remercie encore une fois de me l'avoir proposé.
Moi.
Vous savez que j'ai une page Facebook qui s'appelle Histoire et mémoire 14-18 et 39-45 Rodez-Aveyron. N'hésitez pas à me contacter pour me donner vos avis, pour si vous avez des idées
aussi de sujets, pourquoi pas.
Ou si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit.
Ou si vous n'êtes pas d'accord.
Ou si vous n'êtes pas d'accord, tout à fait. Mais voilà, ça, n'hésitez pas à me contacter, ça serait sympa.
Bah, tu fais bien de le dire. Alors, par contre, toi, des idées, t'en as quand même pas mal, hein, même si tu es prêt à en entendre de nouvelles.
Oui.
Et dans 15 jours, tu connais déjà le sujet de notre prochaine émission Mémoire Aveyronnaise numéro 7.
Ah, qu'est-ce que tu es curieux.
J'espère.
Qu'est-ce que tu es curieux. Chaque fois, tu me poses la même question. Alors, je vais vous donner des indices.
Oui.
En fait, la prochaine fois, je vais vous parler d'une très belle brune.
D'une
très belle brune.
Ah ouais, j'avais bien entendu. D'une belle brune.
D'une belle brune.
Donc tu parles de bière ou tu parles d'autre chose ?
D'une femme.
D'accord. Bah écoute,
c'est
très bien.
Je vais vous parler d'un des sourires les plus connus au monde.
D'un des sourires les plus connus au monde. Italienne, Sophia Loren, Gina Lollobrigida. Comment s'appelle l'actrice la plus récente là ? Monica Bellucci.
Non, bah, c'est quand même historique. Hein. Elle n'est pas encore historique.
Elle rentrera dans l'histoire, Monica Bellucci.
Par contre. T'as vu juste ?
Ouais.
Parce que je vais parler d'une belle italienne.
Aveyronnaise ? Enfin, parce qu'il faut y a quelque chose.
Alors, il y a un lien avec l'Aveyron, c'est sûr. Mais c'est une belle italienne qui vit à Paris.
Une belle italienne qui vit à Paris.
Une très belle italienne avec un sourire des plus connus au monde qui vit à Paris depuis plusieurs siècles.
Plusieurs siècles ?
Ouais.
Ouais, mais alors,
elle est craquelée, mais pas ridée. Bon, allez, j'abrège tes souffrances intellectuelles.
Ouais. Lynn Renault, elle n'est pas italienne.
Non. Non.
Donc, non, je suis désolé.
Je vais vous parler de la Joconde.
Ah.
Alors, pourquoi l'Aveyron?
Léonard de Vinci était aveyronnais.
Peut-être du côté de sa mère, mais faudrait vérifier, c'est pas sûr. La Joconde a été cachée. Elle a vécu un véritable périple pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter d'être volée par les Allemands.
Ouais.
Et dans son périple, elle a été cachée à l'abbaye du Loc-Dieu, chez nous, en Aveyron.
Ah.
Voilà pourquoi.
Ah bah, tu m'apprends encore quelque chose. Et je suis pressé d'être dans 15 jours pour avoir tous les détails de cette histoire.
Moi aussi.
Parce que on l'a caché, mais on l'a retrouvé, je le sais, je l'ai vu au Louvre. Donc,
oui, c'est ça.
Tout s'est bien passé, tout son séjour en Aveyron.
Tout s'est bien passé.
On a pris soin d'elle.
Elle n'a pas perdu son sourire.
Bon, bah, rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup, Vincent.
Dans 15 jours, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.